C'est l'image du week-end. 70 chefs d'État et de gouvernement qui remontent les Champs-Élysées, côte à côte, jusqu'à l'Arc de Triomphe. Rejoints par Donald Trump et Vladimir Poutine, ils ont assisté aux commémorations du centenaire du 11 novembre 1918. Une cérémonie placée sous le signe de l'unité.
Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout.
Une nouvelle occasion pour Emmanuel Macron de dénoncer la tentation nationaliste.
Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importent les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la porte à être grande, ses valeurs morales.
Une remarque qui a atteint sa cible. Donald Trump a boudé dans l'après-midi l'ouverture de la première édition du Forum sur la paix de Paris. Absent, le président américain, chantre du protectionnisme, était pourtant dans tous les esprits.
L'affaiblissement de l'esprit de compromis propre aux démocraties et l'indifférence à l'égard des règles collectives sont le poison du multilatéralisme.
Alors Donald Trump porte-t-il le coup de grâce au multilatéralisme? Faut-il sauver ou réinventer ce modèle qui constitue le socle des relations internationales depuis l'après-guerre?
Une spectatrice qui va nous permettre de savoir de quoi on parle, elle demande en quoi consiste tout simplement le multilatéralisme. Zaki Laïdi, est-ce qu'il y a une définition simple qui fasse consensus? Est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on parle de multilatéralisme?
Alors la définition classique, c'est la coopération, le système de régulation de la coopération entre des États sur la base d'un certain nombre de principes
communs
et institutionnalisés. Mmh. C'est-à-dire que tout accord entre puissances n'est pas un accord multilatéral. Mmh. Si la Russie, la Turquie et l'Iran se mettent d'accord sur la Syrie et qu'en même temps la Russie vote contre au Conseil de sécurité, on n'est pas dans le multilatéralisme. Mmh. En revanche, quand l'Europe signe un accord bilatéral avec le Japon sur le plan commercial, elle est dans une logique multilatérale, parce que c'est compatible l'une avec les règles de l'OMC.
Alors, je rappelle qu'on tient ce débat en ce moment où se déroule le Forum sur la paix à Paris, avec des chefs d'État, mais pas seulement des ONG, des représentants de la société civile. Et il y a un certain nombre de projets qui sont présentés. Cher Claude,
et c'est notre chiffre du jour. Parce que ce Forum pour la paix est comme une vitrine du multilatéralisme ou de la bonne volonté. Notre chiffre du jour, 120, comme les 120 projets émanant de 42 pays, 10 organisations internationales, puis des entreprises, des associations, des ONG qui sont proposés, mis presque à l'encan pour qu'on s'en empare dans ce forum. Alors, ça va de tout. Hein. Il y a des gens qui veulent lutter contre la torture en Amérique latine. Il y a des gens au Pakistan, là, c'est très intéressant, qui veulent promouvoir le dialogue interreligieux, ce qui, après l'affaire Asia Bibi, effectivement, est utile. Votre levée de sourcil, Adrien Desmin, vous désigne. Est-ce que la bonne volonté et la coopération sont encore des instruments pour changer le monde? Ou est-ce que, j'entends votre ironie, ce n'est que de la poudre aux yeux?
Non, enfin, vous voyez le mal là où il n'est pas forcément. Je salue les initiatives, évidemment, des uns et des autres pour faire avancer les choses. Maintenant, il faut être réaliste. Il y a deux tentations, j'allais dire, dans le multilatéralisme. C'est soit de faire des forums où chacun fait une succession de discours, on fait des grandes phrases et on plaît à son opinion.
C'est ce qui a lieu à Paris en ce moment.
C'est ce qui a lieu, à mon avis, à Paris. On n'a pas forcément de réalisation très concrète.
Mais là, ce sont des projets concrets. Mais là, ce sont des projets concrets.
Voilà, on s'appuie sur la société civile. C'est très bien. Moi, je ne vais pas à l'encontre de ça. Hein. Bien au contraire, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Et la deuxième, à mon avis, tentation du multilatéralisme, c'est d'en faire un fonctionnalisme dur avec une architecture supranationale, technocratique, qui manque de légitimité, qui est complètement déconnectée des aspirations des différents peuples qui ne sont pas tous d'accord sur Terre.
Elvire Fabry.
Je crois que derrière le multilatéralisme, enfin, ça fait écho à ce que disait Zaki Laïdi, il y a un principe de régulation et de volonté de réguler et volonté de réguler avec une logique de développement durable, que ça dure dans le temps. C'est l'inverse exact du rapport de force et du rapport de force qui peut vouloir dire soumission du plus faible au plus fort. Et là, ce qui est intéressant dans l'exercice de ce forum, même si en effet, enfin, vous disiez tout à l'heure, le multilatéralisme n'est pas exempt de volonté de puissance aussi, de promouvoir certains principes. On cherche à promouvoir ses propres valeurs. Mais dans ce forum, il y a la volonté de mobiliser aussi des nouveaux types d'acteurs, que ce ne soit pas simplement de l'intérêt étatique, mais qu'il y ait une dynamique plus de bottom-up, du bas vers le haut.
De la société civile.
Qui mobilise des acteurs de la société civile, des ONG, et qui essaye de voir un peu, de faire œuvre de créativité aussi, un peu pour reconstruire cette logique coopérative.
Oui, dans le multilatéralisme, il faut voir aussi que les choses ont évolué. Par exemple, pourquoi la COP 21 a réussi alors que Copenhague avait échoué? C'est parce qu'entre-temps, la façon de penser les choses a changé. C'est-à-dire que pendant longtemps, sur le changement climatique, notamment après Kyoto, on était dans un système où on définissait des objectifs et on demandait aux États de les mettre en œuvre. Ça a totalement échoué. Eh bien, on a changé de logique. Et si Paris a réussi, c'est d'abord parce qu'il y a eu un accord entre les Américains et les Chinois. Et
ça n'a pas très bien réussi.
Ils se sont tirés depuis.
Non, mais c'est-à-dire que vous venez de clore votre démonstration. Si la conférence de Paris a réussi, contrairement à celle de Copenhague, c'est parce que cette fois, les Américains et les Chinois, les deux grandes puissances dominantes, s'étaient mis d'accord. Donc il n'y avait pas de multilatéralisme.
Non.
Attendez, vous avez dit.
Non. Il y a un. Oui, mais si vous me laissez aller jusqu'au bout, je développerai l'argument. Il y a un accord préalable entre les États-Unis et les Chinois, et ensuite qui s'est étendu parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit il faut que ce soit les États eux-mêmes qui s'approprient le processus, qui donnent leurs propres objectifs et qui après doivent se tenir aux objectifs que eux-mêmes ont définis. C'est-à-dire qu'il y a un processus de réappropriation. Mais là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que le multilatéralisme traduit des rapports de puissance. Et si aujourd'hui le multilatéralisme est en crise, c'est parce que, comme je le dis dans ce papier depuis 2008, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une tectonique des plaques qui fait que depuis 2008, symboliquement, la production des pays émergents a dépassé celle des pays développés. Et donc, il y a un nouveau rapport de force qui s'est créé, que le multilatéralisme qu'on connaissait est issu de 45. Et donc là, on a une volonté de changer. Mais il y a un paradoxe. C'est que à l'OMC, par exemple, sur le plan commercial, ce sont les émergents qui veulent le statu quo. Et ce sont les occidentaux qui veulent modifier les règles du multilatéralisme.
Alors, vous avez ouvert pas mal de pistes, on va y revenir, mais en attendant, on va s'intéresser à l'un des financiers du Forum sur la paix, Microsoft, enfin en l'occurrence son président, il s'appelle Brad Smith, c'est le président de Microsoft, donc, qui est conscient, et plus que conscient, qu'il faut pacifier de toute urgence le cyberespace afin de contenir la cyberguerre qui menace de tous côtés. Son portrait très laudateur par Thibault Nolt.
Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements.
Si le président Trump tourne le dos à de nombreux traités internationaux, un patron américain du numérique milite pour la défense du multilatéralisme. Alors, faut-il se connecter à Brad Smith? Brad Smith est président de Microsoft, un rôle parallèle à celui de PDG, à cheval sur le droit, la politique et la diplomatie. Brad est présent au Forum sur la paix de Macron et y présente un projet pour la paix digitale en continuité avec sa Convention de Genève numérique. Bon, écoute, je vais te poser ma question une dernière fois et après, je lui fragmente le disque dur.
Non, pas le disque dur! Tu peux pas lui enlever sa dignité de machine!
L'an dernier, aux Nations Unies, à Genève, Brad a présenté un projet de traité multilatéral sur le modèle de la Croix-Rouge ou de l'AIEA pour cadrer la cyberguerre entre États, protéger les infrastructures civiles, comme les hôpitaux, garantir la neutralité des entreprises technologiques. Juriste en chef de Microsoft, père de batailles juridiques homériques avec l'État fédéral, l'Union européenne, la concurrence, Bradou est un pacifiste du kilomètre. Réputé conciliant et humaniste, il a même indexé les bonus de ses équipes sur leur capacité à embaucher des minorités. Jerry, je ne peux pas t'embaucher. Ça voudrait dire la fin de mon bonus et pas de vacances au ski pour les gosses. Mais si tu pouvais devenir noir ou même transsexuel, là... Dans un édito du Financial Times, Brad rappelle que dans les 20 ans qui ont suivi la Première Guerre mondiale, les démocraties ont flanché, le multilatéralisme a flétri, la SDN est morte, qu'aujourd'hui la technologie est le nouveau champ de bataille et qu'elle impose des règles mondiales communes. Pour survivre à la Troisième Guerre mondiale, passez à Windows 11.
Merci Thibault Nolt, pomme cul.
Elvire Fabry, est-ce que des multinationales, qui souvent s'abstraient de règles communes, peuvent être porteuses d'un intérêt général international?
Sur le principe, j'ai envie de dire, pourquoi pas? pourquoi pas. Il y a un principe d'équilibre et de toute façon, encore une fois, ce ne sont pas les seuls mandataires pour énoncer les règles. Ça peut être intéressant que eux-mêmes, s'ils appellent eux-mêmes à établir des règles, alors ça peut être aussi des règles de concurrence qui sont derrière, d'équilibre de pouvoir économique. Donc il faut décrypter derrière. Encore une fois, ça ne peut être qu'une amorce et pas davantage.
Alors, est-ce que le droit de veto à l'ONU, institution qui a quelques dizaines d'années, qui peut être vieillotte ou obsolète, on en parlera tout à l'heure, est le contraire du multilatéralisme? Parlons-en, Nadia.
Oui, c'est peut-être même l'outil le plus unilatéral qui soit. Et ce veto, c'est donc cette prérogative qui est accordée aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France et la Russie, qui vont pouvoir s'opposer à une décision commune. Et ils ne s'en privent pas, en tout cas depuis 1994. Les États-Unis en ont usé 15 fois. Ils l'ont fait pas plus tard qu'en décembre 2017, quand ils ont posé leur veto à une résolution qui condamnait leur reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et à ce jeu du seul contre tous, la Russie se débrouille évidemment très bien, avec pas moins de 12 vétos qui ont été opposés, qui concernaient la guerre en Syrie, avec souvent d'ailleurs le soutien de la Chine. Se pose donc assez régulièrement la question de l'abolition ou de la suspension de ce droit de veto. C'est même un serpent de mer, hein. On en parle quand même depuis très très longtemps. Il y a 5 ans d'ailleurs, la France avait présenté une proposition qui invitait les membres permanents à renoncer à leur droit de veto en cas de massacre comme ce qui se passe en Syrie par exemple. Et entre-temps, on a donc ce contexte géopolitique et l'arrivée de Trump. Et la question se pose plus que jamais aujourd'hui, Zaki Laïdi. Est-ce qu'il faut suspendre ce droit de veto ou tout simplement l'annuler? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire légalement?
De toute façon, tout est possible si on change la charte. Le problème, c'est que les détenteurs du droit de veto n'ont pas envie de l'abandonner. C'est aussi simple que cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que les Européens, les Français et les Britanniques n'utilisent plus leur droit de veto. Ouais. Donc ça montre aussi un attachement au multilatéralisme. Mais la question que vous posez est assez juste. Est-ce que quand on utilise le droit de veto, on est dans le multilatéralisme ou pas? Et formellement, absolument, puisque c'est un droit qui est reconnu. Et en même temps, on voit bien que ça contredit l'esprit. C'est-à-dire quand les Russes systématiquement utilisent leur veto sur Syrie ou les Américains systématiquement sur Israël, eh bien, il y a en tout cas par rapport à l'esprit multilatéral un vrai problème.
Votre voisin n'est pas d'accord du tout.
Oui, parce que
Adrien Desuin.
Souvenez-vous de 2003, si la France n'avait pas posé son veto
à la guerre en Irak.
Et bon, il y a quand même eu cette guerre en Irak, c'est-à-dire que les États-Unis sont passés outre les Nations Unies, mais il n'empêche que ce droit de veto était à mon sens légitime. Et ce droit de veto, il a été effectivement décidé par à la création de l'ONU, donc après-guerre, c'était quand même un moment important. Et il était, c'est vrai, cet accord est un petit peu ancien, mais au moins il posait dans l'anarchie de l'Assemblée générale des Nations Unies, où chaque État a une voix, l'idée qu'il y avait quand même des grandes puissances.
Mais il n'est pas obsolète aujourd'hui?
Non, je ne pense pas. Le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas parce que les Américains et les Russes n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Voilà. Le problème, c'est que les grandes puissances n'arrivent pas à se coordonner,
voilà,
à se parler.
Exactement. Oui. C'est ça le gros problème.
Je dirais qu'on a même un problème qui va un cran plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on a affaire à des grandes puissances qui utilisent ce droit de veto pour faire imploser, en fait, l'appareil. Pour faire imploser. Enfin, il y a une volonté, là, de blocage du multilatéralisme. C'est vrai que vous disiez, il y a cette inertie, déjà, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on a le sentiment, aujourd'hui, que le veto utilisé par les Russes, par les Chinois, est fait pour systématiquement contrer n'importe quelle décision qui soit prise à l'ONU. Et on le voit aujourd'hui à l'Organisation mondiale du commerce. La question se pose de savoir si les États-Unis vont faire imploser de l'intérieur la mécanique en utilisant leur droit de... qui est informellement un droit de veto, qui est le principe de l'unanimité sur la nomination des juges.
Une question sur Donald Trump.
Oui, ça nous amène à Donald Trump, Zaki Laïdi. Est-ce que Donald Trump est une réaction au fait que les pays émergents n'ont pas joué les règles du jeu, au fait que la Chine, au fait que la Russie ne joue pas les règles du jeu? On a tendance en France à le considérer, c'est le discours de Macron, comme l'homme qui fait exploser le multilatéralisme. Est-ce qu'au fond, il n'est pas simplement une réaction de défense des États-Unis face à un ordre devenu anarchique?
Alors, il y a deux choses, et là, vous avez totalement raison. Si vous prenez, par exemple, les objections américaines à l'OMC, toutes les objections que fait Trump ont été déjà formulées par l'administration Obama.